Bonjour à chacun, à chacune. Je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer ce matin. Effectivement, on va reprendre notre parcours dans l'évangile de Marc, un parcours qui a été initié il y a environ un an et demi. Et on s'était arrêté donc à la fin du chapitre 9. Et avant de plonger dans notre texte de ce matin, j'aimerais brièvement replacer un petit peu le contexte de notre passage et reparcourir les grandes lignes qu'on a vues dans ces 9 premiers chapitres. Rappelez-vous, Marc commence son évangile en parlant de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il nous donne par là les deux axes, les deux grands sommets vers lesquels il va pointer dans son évangile. Ce premier sommet va se trouver en Marc chapitre 8 au verset 29 où Pierre va confesser à la question de Jésus-Christ « Qui dit-on que je suis ?» va confesser « Tu es le Messie ». Donc tu es le Christ, le Messie, celui qui est choisi, qui a été oint par Dieu. Et puis le deuxième sommet de notre évangile se trouvera au chapitre 15, verset 39, donc bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et en Marc 15, 39, le soldat romain devant la croix va confesser et dire « Cet homme était vraiment le fils de Dieu ». Et dans les 8 premiers chapitres de l'évangile de Marc, on voit donc Jésus qui renverse les effets de la chute et du péché. Il annonce la proximité de son royaume et il renverse donc les effets de la chute et du péché. Et on voit donc ce Jésus capable de vaincre la maladie, capable de vaincre la mort, le mal, le malin. Jésus qui annonce clairement qu'il est Dieu lui-même, car il peut pardonner les péchés. Et puis depuis Marc 8, on voit Jésus qui parle de sa mission. À 3 reprises, il annonce qu'il est venu pour souffrir, pour subir le rejet, pour mourir et pour ressusciter. Il va l'annoncer 3 fois à ses disciples. Et depuis Marc 8, Jésus est donc en chemin vers Jérusalem, là où il va donner sa vie. Et il est en train d'expliquer à ses disciples que leur mission en tant que disciples est étroitement liée à celle de Jésus. Que suivre Jésus, c'est un renoncement à soi-même, une invitation à porter sa croix. Suivre Jésus à un coup. Et Jésus va donc petit à petit montrer ce que cela signifie de le suivre et de perdre sa vie. Et au travers de l'épisode de la Transfiguration, il y a cette invitation du Père aux disciples qui leur dit « Écoutez les paroles de Jésus ». Voilà ce que c'est la vie de disciple. Être disciple de Jésus, c'est écouter, apprendre à écouter les paroles de Jésus. C'est une invitation à lui faire confiance et à s'humilier, parlant des enfants, de leur place, des petits-enfants. C'est une invitation à aimer d'autres disciples de Jésus. Un peu plus loin, c'est une invitation à combattre son péché et une invitation à ne pas inciter d'autres à pécher. C'était les dernier verset du chapitre 9, et on va donc prendre la lecture de notre passage ce matin, Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Je vous avoue que ce n'est pas forcément le passage que j'aurais choisi spontanément, mais je trouve que c'est la richesse de parcourir un livre dans son ensemble, parce qu'à un moment donné, on rencontre des textes justement qui sont peut-être moins faciles, avec lesquels on est moins à l'aise, mais qui sont là et qui sont importants. Alors j'avance ce matin, bien sûr, par la grâce de Dieu. Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et, conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit : c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Et il leur dit : « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Ici, c'était la lecture de notre passage dans la parole de Dieu. Il y a quelques années de ça, notre fiston a reçu une voiture téléguidée pour un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Et pas de chance, environ un mois après, il y a une toute petite pièce, pas plus grande que ça, qui s'est abîmée. C'était un pignon et elle ne fonctionnait plus. On l'avait acheté dans un magasin de la région. Donc on est parti avec la voiture, avec la facture. Et puis on l'a présenté, on a dit voilà, elle ne marche plus. On a identifié le problème, c'est juste cette petite pièce qui est à changer, une petite pièce en plastique. Est-ce que ce serait possible de la faire réparer ? Ils ont gardé donc la voiture et une semaine après, ils nous ont appelés. Ils ont dit vous pouvez venir récupérer la voiture. Et quelle fut pas notre surprise de nous rendre compte qu'ils n'avaient pas changé la petite pièce qui était cassée, mais ils avaient donné carrément une nouvelle voiture téléguidée, neuve. Et ça nous a fait vraiment bizarre, et ça a juste appuyé cette réalité que nous vivons dans une société de consommation fortement marquée par la culture du remplaçable, et à laquelle on peut aussi combiner un désintérêt croissant pour l'engagement. Et on le voit dans différents domaines de nos vies. D'un point de vue matériel, l'électroménager n'est plus aujourd'hui fabriqué pour durer 15-20 ans, comme c'était le cas à l'époque. Et si on prend les smartphones, par exemple, au bout de 2-3 ans, ils sont quasiment plus opérationnels. On le voit aussi avec les forfaits, où on a vu apparaître ces dernières années les forfaits sans engagement, où on peut changer de forfait presque chaque mois. On le voit au niveau professionnel, où les gens ne s'engagent plus dans des entreprises sur des CDI sur 20, 30, 40 ans, comme c'était le cas à une époque. Aujourd'hui, les professionnels trouvent même dur de trouver des personnes qui veulent signer simplement un CDI. On ne veut pas s'engager, on veut rester libre de changer. On le voit aussi au niveau ecclésial, pas facile de s'engager, de prendre des responsabilités, s'engager aussi en tant que membre d'église, ce n'est pas évident. Et puis on le voit aussi dans le domaine relationnel. Le mariage aujourd'hui est en perte de vitesse. On ne veut pas s'engager. Ou alors, quand on s'engage dans le mariage comme si c'était une étape réversible, avec cette idée de se dire, si jamais ça ne marche pas, eh bien je peux toujours partir ou divorcer. Il y a quelque chose de paradoxal dans cela, parce que en même temps, on sait que tout le monde aspire à être aimé de façon permanente et durable. Est-ce que le véritable amour que l'on cherche ne s'inscrit-il pas justement dans la permanence et dans la durée. On va regarder quel regard est-ce que Jésus porte sur le divorce dans ce passage. Et il va y avoir deux constats de fait. Le premier, c'est que le divorce est une pratique liée au cœur de l'homme, versets 1 à 5. Le deuxième constat, c'est que le divorce est une pratique étrangère au cœur de Dieu, versets 6 à 12. Alors, on voit des pharisiens, qui étaient donc les hommes pieux, versés dans les Écritures, qui étaient attachés à mettre en pratique la loi de Dieu. C'était un petit peu l'élite religieuse de l'époque, qui s'approche de Jésus et qui viennent pour tester Jésus. Comprenez par là, en fait, ils ne viennent pas en amis auprès de Jésus. Ils sont là pour lui tendre un piège. Et lui pose cette question: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? C'est une question piège à deux raisons. La première raison, c'est une raison politique. Jésus vient de basculer en Judée, dans un territoire qui est le territoire de la Pérée. Et il faut savoir que ce territoire, il est sous la juridiction du roi Hérode, Hérode Antipas. Et si vous vous souvenez un tout petit peu, on l'a rencontré quatre chapitres avant, au chapitre 6, où on voit Jean-Baptiste qui avait dénoncé le divorce du roi Hérode et son remariage avec Hérodias. Et on connaît qu'est-ce qu'il a coûté à Jean-Baptiste, qui a perdu sa tête pour cela. Et on pense que très certainement les pharisiens veulent piéger Jésus en l'amenant à se prononcer sur le divorce et se dire, suivant ce qu'il dit, il subira peut-être le même sort. Deuxième raison, un piège pour une raison éthique. C'est-à-dire que le divorce était un sujet, un point très débattu, très controversé déjà à ce moment-là. Et la question de fond, c'était en fait sur quelle base, d'après quel motif légitime est-ce qu'on peut divorcer de sa femme? Et à cette époque, il y avait un petit peu deux écoles qui s'affrontaient. L'école d'un rabbin qui s'appelait Shammai, une école assez conservatrice, qui disait, en fait, on ne peut divorcer qu'en cas de faute grave, de comportement honteux, d'infidélité ou d'autres choses, pour un motif vraiment sérieux. Et puis l'autre école, celle du rabbin Hillel, qui était beaucoup plus libérale et qui disait, en fait, on peut divorcer pour n'importe quelle raison qui déplairait à l'homme. Quand sa femme loupe, brûle un repas, ou si un jour cet homme découvre une femme plus belle que la sienne, il peut se séparer de sa femme. Et en fait, les pharisiens attendent de Jésus très certainement une réponse assez simpliste, de type « oui, non », qui amènerait donc Jésus à prendre parti pour l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces écoles, et se mettre les membres du parti adverse à dos. Mais c'est une question qui dit beaucoup du cœur mauvais des pharisiens à ce moment-là. Parce que finalement, au travers de cette question, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus intéressés à piéger Jésus, finalement, que par la réponse en elle-même, d'avoir une vraie réponse à leur question. Et enfin, un cœur mauvais parce que cette question est surprenante et révèle déjà que quelque chose a mal tourné, qui révèle déjà qu'il y a eu un échec. En fait, ils abordent le thème du mariage en demandant quelles sont les modalités pour en sortir. Leur attitude nous fait penser un petit peu à une personne qui vient de se voir accorder un prêt bancaire et qui demande ensuite dans quelles conditions elle pourrait être dispensée de rembourser. Ou quelqu'un qui voudrait apprendre à piloter un avion et qui demande comment on atterrit en cas d'urgence. Ou quelqu'un qui voudrait s'entraîner à faire la guerre et qui s'entraîne à battre en retraite. On a ici un petit peu la pensée des pharisiens qui est en fait le mariage pour eux est déjà considéré comme un contrat auquel on peut mettre fin. Un contrat jetable. Et on veut savoir juste quelles sont les conditions pour cela. Et Jésus ne va pas se faire avoir. Il va, au travers d'une question, exposer justement l'état de leur cœur. Et il a pour cette question, que vous a prescrit Moïse ? Vous qui êtes pharisiens, qui étudiez les textes de la loi, qui êtes versés dans les Écritures, justement, que dit Moïse à ce sujet ? Réponse des pharisiens, Marc chapitre 10, verset 4. Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Il cite par là le cinquième livre de la Torah, de la loi, le Deutéronome, passage de Deutéronome chapitre 24, verset 1. Le problème, c'est qu'il y a une erreur d'interprétation. Le but de cette loi que Moïse a donnée n'est pas d'autoriser le divorce. Elle n'est pas de donner le droit de divorcer. Elle n'est pas d'encourager à divorcer. Non, parce que le divorce, à ce moment-là, était déjà une pratique courante. Mais cette loi avait été donnée pour protéger, justement, dans une société très patriarcale, pour protéger la femme qui était répudiée, qui était rejetée, en officialisant la rupture pour lui permettre de se remarier, tout en encourageant par là même le mari à bien réfléchir avant de se séparer de son épouse, parce qu'il ne pourrait pas l'épouser à nouveau après cela. Autrement dit, il ne peut pas se séparer d'elle un vendredi et le lundi se remarier avec elle. Si Moïse vous a donné cette loi, en fait, c'était tout simplement pour réguler, pour limiter les effets néfastes du divorce. Et, dit Jésus, c'est en raison de la dureté du cœur de l'homme. La loi de Dieu met en lumière et limite les conséquences de la dureté de nos cœurs. Le terme littéral pour la dureté de cœur, ça donne l'image de c'est ce qui a donné le terme sclérosé. Nous avons des cœurs qui sont sclérosés, c'est-à-dire qui s'obstinent à suivre de manière insensible ses propres idées ou ses envies. C'est un cœur qui dit en fait, je n'ai pas besoin que Dieu me dicte la manière dont je dois mener ma vie. Et en s'intéressant aux raisons pour lesquelles ils peuvent divorcer, les pharisiens montrent finalement qu'ils sont peu soucieux du projet et des intentions de Dieu pour le mariage. En fait, ils lisent les Écritures, ils lisent la Bible, en cherchant non pas comment plaire à Dieu, mais en cherchant l'exception, en cherchant la porte de sortie qui leur permettra de satisfaire leurs propres désirs égoïstes. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas jeter la pierre aux pharisiens. Nous sommes tous concernés par cela. La Bible révèle la dureté de nos cœurs, nous aussi. Bien souvent, nous lisons la Bible en cherchant non pas ce qui plaît à Dieu, mais le prétexte pour vivre comme nous avons envie de vivre, pour assouvir nos propres désirs pécheurs. Quel est le passage dans la Bible qui peut justifier mon comportement ? Nous voulons peut-être les avantages du mariage, la vie de couple, le sexe, l'amour romantique, peut-être même le mariage lui-même, mais quelque part, on veut aussi la possibilité d'en sortir au cas où ça tournerait mal. C'est tout le contraire du véritable amour qui consiste à faire passer les intérêts de l'autre avant les miens. C'est le problème de la dureté de nos cœurs, et qui n'est pas lié qu'au domaine du divorce, mais à bien d'autres domaines dans notre vie. Jésus n'est pas venu dire ce qui est permis ou pas permis par la loi, mais il est venu nous remettre beaucoup plus profondément en question. Son désir est de réorienter nos cœurs vers Dieu, vers ce qui est bien, vers sa volonté, vers ce qui l'honore. Vous voulez savoir pour quelles raisons est-ce que le divorce est permis ? Eh bien, demandez-vous plutôt quel est le projet originel de Dieu. Et Jésus va donc montrer aux pharisiens que le divorce est une pratique étrangère au cœur de Dieu. Comprenez par là une pratique étrangère au projet initial de Dieu pour l'homme et pour la femme. Et pour cela, Jésus va revenir et citer le début de la Genèse, premier livre de Moïse, pour nous présenter l'intention de Dieu, celui qui est l'auteur, celui qui est le créateur du mariage. Marc chapitre 10, je reprends les versets 5 à 8. Jésus leur dit : c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Nos enfants sont fans de crêpes, mais pas n'importe quelle crêpe. Ils aiment les crêpes de couleur. Moi, j'ai mangé les deux. Franchement, le goût ne change pas, mais il y a un vrai intérêt pour les crêpes de couleur. Une pâte à crêpes normale dans laquelle on met un petit peu de colorant alimentaire et ça donne ce qui est affiché à l'écran. En revenant sur ce texte fondateur, sur l'institution du mariage, Jésus est en train de leur rappeler qu'au commencement, Dieu a prévu un homme plus une femme est égal à une seule chair. Un plus un égale un. C'est les mathématiques de Dieu pour le mariage. Les deux deviennent un et sont tout aussi indissolubles que deux matières qui ont été mélangées comme le colorant et les crêpes. Impossible de redissocier le colorant de la pâte à crêpes. Et il est intéressant de regarder que le terme « s'attacher », quand il est question de s'attacher, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, vient d'un terme qui a donné le mot « colle ». Et je peux vous dire, ce n'est pas la colle du post-it. Le mariage, nous dit Jésus, est une colle tellement puissante qu'elle n'est pas juste l'élément de jointure entre deux matières, mais elle agit pour que les deux matières fondent et se soudent entre elles pour ne devenir qu'une, et sont donc impossibles à séparer, impossibles de revenir en arrière. Les deux ne feront qu'un, ils sont unis de manière indissoluble. Voilà la volonté de Dieu, voilà son projet originel. Voilà la beauté du mariage, la beauté de cette alliance, un engagement permanent entre un homme plus une femme, unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Et quelque part, c'est bien ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous. On aspire à rencontrer la personne avec qui on va pouvoir s'unir, qu'on va pouvoir aimer et qui va nous aimer, et avec qui on va pouvoir tout partager, sans se poser la question si un jour, cette personne va nous lâcher ou nous laisser tomber. Et en privé, Jésus va révéler davantage sa pensée à ses disciples. Une pensée peut-être tout aussi choquante et radicale. Le remariage après le divorce, dit Jésus,
revient à de l'adultère en raison de l'indissolubilité de ce lien. Ce sont des versets difficiles et peut-être douloureux à entendre. Et c'est très, très certainement lié justement à la réalité de nos cœurs. J'aimerais terminer par une remarque et trois applications. Tout d'abord, une première remarque qui me semble vraiment importante à soulever, c'est qu'on n'a pas ici un enseignement exhaustif, complet sur le divorce. On n'a pas dans ce passage tout ce que la Bible enseigne à ce sujet. Bien d'autres choses sont dites par ailleurs. On pourrait les découvrir au travers d'autres textes pour avoir cette vue beaucoup plus complète sur ce sujet. Mais je crois que l'intention ici de l'auteur, c'est de nous rappeler ce qui constitue le fondement, le principe général, la base, le cœur, le projet initial de Dieu, enseigné par Jésus lui-même, Dieu fait homme. Et cet enseignement est un encouragement à nous rappeler qu'en raison de la beauté et de la force du lien du mariage, un lien indissoluble aux yeux de Dieu, le divorce ne devrait jamais être abordé, considéré, envisagé avec légèreté ou simplicité, pour n'importe quelle raison. En tant que disciple de Jésus, notre désir est de chercher à honorer et plaire à Dieu par nos vies, par nos choix. Choisir le mariage, c'est s'engager à refléter, même imparfaitement, un Dieu qui s'est engagé totalement envers nous au travers de Jésus-Christ et qui nous a tout donné. Dans une société de consommation et de désintérêt pour l'engagement, choisir de se marier avec une personne jusqu'à ce que la mort nous sépare est un choix radical, à contre-courant de ce que nous pouvons entendre aujourd'hui, mais qui peut être vécu avec confiance et certitude d'être soutenu par Dieu et par sa grâce. Ce matin, j'aimerais m'adresser à vous qui êtes peut-être célibataire. Et après le partage de ce passage, j'aimerais vous dire ceci. Réfléchissez bien avant de vous marier. Ne vous engagez pas dans un mariage à la légère. Ne vous précipitez pas. Ne pensez pas que le mariage sera la solution à vos problèmes. Je me rappelle de ma marraine qui est restée célibataire très longtemps, je crois jusqu'à l'âge de 40-45 ans, mais qui disait toujours « Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. » Quelqu'un d'autre a dit « Le choix de notre conjoint est certainement le deuxième choix le plus important après celui de suivre Jésus. » Si vous êtes fiancé ou que vous fréquentez une personne avec qui vous envisagez de vous marier, est-ce que je peux vous demander que si vous vous rendez compte en cheminant, en apprenant à vous connaître, que cette personne que vous fréquentez, ça risque d'être compliqué. C'est une relation qui peut-être pourrait vous tirer vers le bas. Est-ce que je peux vous encourager à mettre fin à cette relation? Il vaut mieux le faire avant le mariage. Après, c'est plus délicat. Ce sont mes parents qui nous ont dit à chacun de nous trois et nous ont rappelé régulièrement « les fiançailles peuvent être rompues ». C'est un temps où on apprend à se connaître et si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de souci, ça peut être douloureux, mais vaut mieux s'arrêter avant de s'engager. Et enfin, si vous fréquentez quelqu'un mais que vous n'êtes pas encore marié, puis-je vous encourager au regard du passage de ce matin et du plan de Dieu pour le mariage, de ne pas vivre comme si vous étiez déjà marié. L'union sexuelle est une bonne chose, mais elle a été pensée, prévue et réservée par Dieu dans le cadre du mariage entre un homme et une femme qui se sont engagés au préalable devant Dieu et devant les hommes pour la vie et jusqu'à ce que la mort les sépare. N'offrez pas vos corps à quelqu'un si vous ne vous êtes pas encore engagé dans le mariage. Pour vous qui êtes mariés, si votre mariage se passe bien, puis-je vous encourager à remercier régulièrement le Seigneur pour votre conjoint ou votre conjointe. C'est un cadeau de Dieu. Et effectivement, dans la vie de couple, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et on expérimente aussi dans le mariage qu'il y a une forme de renoncement à soi. C'est un engagement qui coûte et qui fait aussi partie de notre vie de disciple. Mais avec l'aide de Dieu, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin de notre conjoint, pour cultiver notre relation de couple et développer ce lien unique qui nous unit pour la gloire de Dieu. Et si l'idée du divorce vous a déjà traversé l'esprit, est-ce que je peux vous encourager à solliciter à la fois le secours de Dieu, mais aussi à chercher de l'aide autour de vous, à en parler? Venez me voir, venez voir Henri, venez voir un frère ou une sœur dans l'église. Parlez-en, ne restez pas seul avec cette idée. Notre Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Enfin, si ce matin vous êtes une personne divorcée, je crois que ce passage n'a pas du tout pour but de vous condamner, ni de vous écraser, et encore moins si vous avez subi le divorce. Le divorce n'est pas le péché impardonnable. Jésus ici ne contredit pas la grâce qu'il offre par ailleurs à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Et on a parlé ce matin, et on a célébré Dieu, celui qui est capable de donner des nouveaux départs, de transformer des situations compliquées. Avec Jésus, le pardon et un nouveau départ sont toujours possibles. La grâce de Dieu reste pleinement disponible. Mais il me semble que nous avons besoin d'entendre ou de réentendre l'importance du lien du mariage aux yeux de Dieu. La Bible rappelle à chacun de nous que nous avons tous été infidèles. Nous avons tous été adultères à l'égard de Dieu. Nous l'avons tous trahi. Nous avons tous bafoué son amour. Rappelons-nous encore par ce passage que Jésus est en chemin vers Jérusalem, vers la croix, pour payer de sa propre vie nos infidélités, afin de nous racheter et de nous offrir cette union parfaite dont le meilleur des mariages sur cette terre ne reste qu'un pâle reflet. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant de voir que la première fois où Jésus fait une allusion à sa propre mort dans l'évangile de Marc, c'est quand il se présente comme l'époux parfait, Marc chapitre 2. Si nous sommes disciples de Jésus, c'est ce qu'il est pour chacun de nous, que l'on soit célibataire, marié ou divorcé. C'est ce seul lien qui demeurera même après notre mort et qui sera l'objet d'une grande fête.